Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Aujourd'hui, nous allons parler de Live at Leeds, qui est un album live du groupe de rock anglais The Who, sorti en 1970. À l'époque de sa sortie, il fut l'objet d'une grande curiosité par le public. Surtout après avoir vu la prestation scénique du groupe dans le film Woodstock, puis la sortie de l'album Who's Next, paru en 1971. Plus tard, je sus que plutôt que de tirer un live de la tournée aux USA avec Woodstock, les Who, et surtout Pete Townshend, choisirent d'enregistrer deux concerts en Grande-Bretagne, un à Leeds et l'autre à Hull. Et ce fut Leeds qui fut retenu compte tenu des moyens de l'époque pour masquer tous les défauts de prise de son. Encore illimité à l'époque, même dans une petite salle accueillant 2000 spectateurs. La pochette de l'album, uniformément beige, porte le titre « The Who Live at Leeds » tamponné en bleu nuit dans la partie supérieure droite de la pochette. L'édition originale ne comptait que 6 titres. En 1995, une version CD est éditée avec 14 titres et plus tard, une autre version est sortie en format deluxe en 2001, qui comportait 33 morceaux, dont l'intégralité de l'opéra rock Tommy joué ce soir-là. Et il est vrai que cette tournée, au départ, était pour la promotion de cet opéra rock. L'album a été déclaré le meilleur album live de tous les temps par le New York Times en 1970. L'enregistrement du concert du 14 février 1970 à l'université de Leeds, dans le Yorkshire de l'Ouest, fut fait à l'occasion donc de la tournée de promotion de Tommy, sortie en 1969. Au départ, les Who, c'est un groupe de rhythm and blues, mais ici c'est la fin de cette période. Et par la suite, ils feront du hard rock avec Who's Next, en particulier l'album qui devait sortir dans la foulée. Une plaque commémorative a été déposée et inaugurée en 2006 dans la salle où se tenait le fameux concert, avec comme inscription « Le réfectoire de l'université est un lieu de concert légendaire. La représentation des Who, ici le 14 février 1970, fut enregistrée et publiée sous le nom de Live at Leeds, le live album le plus célébré de sa génération. » L'album commence avec la chanson Even and Hell, qui est une chanson presque exclusivement jouée en concert. Écrite à la fin des années 60 par le bassiste du groupe, John Entwistle, elle introduisit tous les concerts des Who de 1968 à 1970. D'une grande complexité technique, le morceau est caractérisé par un relativement long solo de la guitare de Pete Townshend, par l'omniprésence de la batterie de Keith Moon et par le volume assourdissant de la basse d'Entwistle. La version studio initiale est devenue difficile à trouver alors qu'elle fut enregistrée pour être la face B du single Summertime Blues d'Eddie Cochrane. Elle n'est actuellement disponible que sur le coffret 30 Years of Maximum Rhythm Blues and Who's Missing. La chanson était l'un des nombreux titres de face B où John Entwistle pouvait placer ses compositions. On saura plus tard que le groupe n'appréciait pas la version studio de cette chanson. Les paroles de la chanson parle du paradis et de l'enfer. La chanson décrit le ciel comme un endroit où vous pouvez aller si vous n'avez rien fait de mal, et l'enfer comme un endroit où vous allez si vous avez été un mauvais garçon. C'est vrai que ça me rappelle. Et John Entwistle a exposé sa position sur le ciel et l'enfer dans la dernière partie en exprimant son regret. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir la vie éternelle et jamais mourir, ne jamais mourir ? En interview, il dira avoir toujours été obsédé par l'idée du paradis et de l'enfer. Pas obsédé de savoir si c'est vrai ou faux, mais juste obsédé par le fait que ce soit une légende, car pour lui, le diable devait bien exister. c'était Even and Hell par les Who à Leeds sur Oxy Web Radio. La chanson suivante s'appelle I Can't Explain, je ne peux pas expliquer. C'est une chanson parue en single en 1965 au Royaume-Uni où elle se classe dans le top 10. I Can't Explain est l'une des toutes premières compositions du guitariste Pete Townshend. Elle fut enregistrée en novembre 1964 au studio ABC de Londres et elle est sortie donc en jingle en décembre aux États-Unis sous le label de la filiale américaine de Decca Records, puis le 15 janvier de l'année suivante au Royaume-Uni chez Brunswick Records, qui est en fait un label utilisé par Decca pour ses sorties au Royaume-Uni. C'est le deuxième single du groupe et en fait c'est le premier qui porte le nom du groupe The Who, paru donc en juillet 64, car auparavant, le groupe s'appelait The High Numbers, les grands numéros. Malgré la volonté du producteur Shel Talmy de voir le groupe percer aux États-Unis, il n'y atteint que la 93e place du Billboard. En revanche, il rencontre un grand succès au Royaume-Uni, où il se classe 8e dès avril 1965. Musicalement, les couplets de la chanson sont basés sur une suite d'accords plaqués avec un son saturé, dès l'intro. En cela, I Can't Explain ressemble beaucoup à la chanson des Kings, All Day and All the Night, parue en octobre 64, elle aussi produite par Shel Talmy. Pete Townshend lui-même admet en 1971 qu'il serait difficile de faire mieux comme copie des Kings. Le guitariste de studio, Jimmy Page, qui sera bientôt dans Led Zeppelin, est sollicité pour jouer la guitare rythmique et le solo en cas d'incapacité de Townshend. Mais finalement, c'est la version de Pete Townshend qui sera jugée plus convaincante et qui sera retenue. Les Who joueront I Can't Explain lors de la plupart de leurs concerts. Elle met en scène la frustration qu'éprouve un jeune homme à ne pas pouvoir faire comprendre à une fille l'effet qu'elle lui fait, alors qu'il pense que c'est de l'amour. C'était I Can't Explain par les Who sur Oxy Web Radio. La chanson suivante, Young Man Blues, est un blues écrit par le compositeur de jazz Muzz Ellison en 1958. Elle est plus connue par la version live des Who que vous allez entendre. La version originale de Muzz Ellison fut enregistrée en 1957. Son compositeur avait alors 29 ans. Et il la publia sur l'album Black Country Suite, comme part du morceau-titre. Appelé blues sur ce disque, le titre durait seulement 1 minute 24. Ce morceau présente la particularité de posséder des paroles agressives à propos de la difficulté pour un jeune homme de se tailler une place dans la société. Pete Townshend entendit pour la première fois cette chanson en 1963 et le groupe commença à la jouer dès 1964 sur scène. Mais c'est la version de 1970 parue sur Live at Least qui est particulièrement célèbre. Le titre est interprété avec une force peu commune. Il débute avec un riff de Townshend accompagné avec rage par John Wetzel à la basse et par d'intenses roulements de batterie de Keith Moon. Et on peut dire qu'au niveau musical, c'est la marque de fabrique des Who. À cela s'ajoute Roger Daltrey qui chante en alternance des riffs. Puis la chanson se transforme en une longue improvisation sur scène, laissant le soin au guitariste de mener le groupe avec des accords toujours plus rageurs. Devant départ faire partie de Tommy, une version studio est parue sur l'édition remasterisée Duds & Sods, un album de compilation des Who, et une autre version live est disponible sur l'édition de luxe de Who's Next, un album qui sortira en 71. La mélodie se retrouve également dans l'album réédité en 2009 par Chris Spedding sur One Step Ahead of the Blues, ou dans le cahier des notes, Spedding affirme qu'il essayait d'en faire une version blues car il pensait qu'Allison n'était pas conscient à l'époque de cette possibilité. La version blues rock de Spedding diffère considérablement de celle d'Allison, évidemment, qui est plutôt un jazz blues, ou des Who qui est franchement rock.
Ain't got nothing in the world these days. I said a young man ain't got nothing in the world these days. Well, you know, in the old days, when a young man was a strong man, all the people, they stepped back when a young man walked by. But you know nowadays, it's the old man, he's got all the money. And a young man ain't got nothing in the world. We'll be right back.
C'était Young Man Blues par les Who sur Oxy Web Radio. Avec Substitute, paru en mars 1966, on aborde une chanson écrite, composée et produite entièrement par Pete Townshend, puis enregistrée le 12 février 1966 au studio Olympic Sound de Londres. Elle est présente sur de nombreuses compilations du groupe, comme Mitty, Pitty, Big and Bouncy, et elle fut reprise par les Ramones sur leur album Acid Eaters, sorti en 1993, pour dire que cette chanson a eu une vie relativement longue. La chanson est justement assez longue et structurée pour un single de l'époque. Du point de vue musical, l'introduction est bâtie sur une succession d'accords répétitifs, la marque de fabrique des Who en général, puis viennent ensuite les couplets, puis le refrain, chantés sur la même grille d'accords que l'intro. Un break composé d'un solo de basse de John Entwistle ponctue la chanson, qui retourne ensuite à son premier couplet. Sur la version studio, on observe un mélange de textures acoustiques et électriques. À nouveau, la basse est mise à l'honneur, tout comme dans My Generation, et Kes Moon se distingue par ses breaks brutaux et chaotiques. Ses breaks de batterie s'entendent bien sûr, ainsi que par son utilisation très fréquente des cymbales. Point de vue poétique, Pete Townshend fait à nouveau preuve de son inventivité. La chanson possède une phrase presque aussi fameuse que le « Hope I die before I get old de My Generation »,« J'espère de mourir avant de devenir vieux », en disant « Je suis né avec une cuillère en plastique dans ma bouche ». Et c'est bien entendu un jeu de mots contre l'expression anglaise qui dit « je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche ». Cela renvoie bien sûr aux problèmes de leur génération en proie à la société de consommation. Cette chanson semble parler de quelqu'un qui semble parfaitement normal et serein au premier coup d'œil, mais qui en fait est miné par de nombreux problèmes. Elle fut aussi une chanson fétiche du répertoire sur scène. C'était Substitute par The Who sur Oxy Web Radio. Le morceau suivant, A Quick One While He's Away, un petit coup pendant qu'il est au loin, est un mini opéra rock, c'est le premier existant dans le genre, du groupe The Who, et il apparaît sur l'album A Quick One, paru en 1966. Lorsque cet album fut terminé, il restait encore 10 minutes d'enregistrement libre sur le disque. Et le producteur proposa alors d'écrire une chanson de 10 minutes. Pete Townshend trouva d'abord l'idée ridicule, car pour lui les chansons duraient 2 minutes 30 tout au plus. Et le producteur proposa alors l'idée d'écrire une histoire de 10 minutes constituée de plusieurs petites chansons. Aussi, elle raconte en 6 parties l'histoire d'une jeune fille qui, attendant son homme qui est parti, trompe son chagrin dans les bras d'Ivor, un vieux routier. Une fois son homme revenu, elle avoue sa faute et est pardonnée. Pete Townshend dira plus tard que la chanson fait référence à des abus sexuels dont il fut victime lorsqu'il était enfant. Il déclara aussi que ce morceau était un test en vue de réaliser l'album Tommy, qui devait sortir en 1969, et qu'il avait déjà dans un coin de sa tête. A Quick One While He's Away est une sorte de mini-opéra, donc préfigurant réel, qui sortira, lui, dans l'album Sell Out, ou les albums suivants, bien entendu, comme Tommy et Quadrophenia. Au cours de la chanson, vous entendrez sûrement les cello, 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 qui veut dire violoncelle en anglais, et il se trouve que dans la partie « Vous êtes pardonné », qui est une composante de l'histoire, il se trouve que les Who auraient aimé avoir un orchestre à cordes en fond sonore, justement avec des violoncelles. Mais le producteur trouvait que c'était très cher et il leur refusa ses moyens. Ben, faute de mieux, les musiciens des Who se sont mis à chanter et à faire semblant de remplacer la partie jouée par les violoncelles. Comme quoi...
Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here.
Driver to make you feel much better. I said, steady on.
My name is Ivor. I'm an engine driver. I know him well. I know why you feel blue. Just cause he's late. Dream or liar, I know.
like a dream to be with you again. Can't believe that I'm with you. I kissed a few and once did sit on either the engine driver's lap and lay toe with him. Da-da-da. You are.
C'était A Quick One, While He's Away, parlez où sur Oxy Web Radio. Summertime Blues, la chanson suivante, a été coécrite et enregistrée par l'artiste américain de rockabilly Eddie Cochran. Elle a été écrite en effet par Eddie Cochran et son manager Jerry Capert. À l'origine, une simple phase B. Ça devait être donc finalement le deuxième morceau d'un single, et elle a été lancée en août 1958. Or, elle culmina au 8e rang du Billboard Hot 100 dès septembre 1958, et au 18e dans les charts anglais. Elle a donc été reprise par de nombreux artistes dans le monde, dont les titres de numéro 1 pour le musicien de country Alan Jackson, et des succès notables pour la version, notamment celle des Who, mais aussi de T-Rex, de Blue Cheer, de Brian Setzer, qui a enregistré sa version pour le film La Bamba en 1987. Jimi Hendrix aussi l'a joué en concert, et même en France, Eddie Mitchell l'a aussi reprise en français. La chanson parle de la lutte entre un adolescent et ses parents, son patron et son membre du congrès, tout un programme. Les Who ont joué Summertime Blues comme une partie essentielle de leur concert, et cela dès le début de leur carrière jusqu'en 1976, avec des apparitions intermittentes par la suite. Le titre n'a pas été joué depuis la mort du bassiste John Entwistle en 2002. Il a été joué lors de la tournée américaine de 1967, à partir de laquelle les premiers enregistrements connus de cette chanson ont été réalisés par les Who, y compris en juin 1967 au Monterey Pop Festival. La version de Live at Leeds est la première version éditée par les Who. Les Who ont enregistré au moins deux versions studio de ce titre en 1967, mais ils les ont laissées longtemps inédites, privilégiant les versions live paru au Festival Pop de Monterey et bien sûr à Woodstock. C'était Summertime Blues par les Who sur Roxy Web Radio. Checking All Over est une chanson de Johnny Kidd and the Pirates, écrite par Frederick Huff, le vrai nom de Johnny Kidd, qui est devenu un standard du rock'n'roll. Enregistré en mai 1960 à Londres dans les studios d'Abbey Road, ce rock'n'roll lancinant, avec son célèbre riff de guitare joué par Joe Moretti, est édité en single sur le label HMV en juin, avec Yes Sir, That's My Baby, en face B. Le disque atteint la première place du hit parade britannique dès le mois d'août 1960. Il la réenregistre en 1965 avec de nouveaux musiciens sous le titre Shaking All Over 65. La chanson est reprise en 1961 par Vince Taylor chez Barclay. En 1964, le groupe de Beats, Shrieking Blue Jeans, obtient un hit mineur au Royaume-Uni avec ce titre. Et enfin, la version des Canadiens de The Guess Who, l'année suivante, rencontre un certain succès en Amérique du Nord, tandis que celle de Normie Rowe est numéro 1 en Australie. Bref, c'est un titre qui, un peu partout dans le monde, a croisé beaucoup de succès et a été souvent repris. Cependant, l'adaptation la plus célèbre est celle des Who, qui l'ont interprété en concert à maintes reprises. On la retrouve notamment, évidemment, ici, sur le Live at Leeds. La chanson a également été reprise par beaucoup d'autres, je citerai Suzy Quatro, Billy Idol, Steve Marriott, Gigi Pop et tant d'autres. Shaking on a Lover est considéré comme faisant partie des trois grands classiques du rock'n'roll britannique avec Move It de Cliff Richard et Brand New Cadillac de Vince Taylor. C'est dire. C'était Shaking All Over par les Who sur Rox et Web Radio. People try to put us to down, talking about my generation, just because we get around, talking about my generation. They say do look awful, talking about my generation.
before I get old.
Talking about my generation.
It's my generation, baby.
Impossible de terminer cette présentation sans parler de My Generation, qui est paru en single en octobre 1967 et qui fut finalement le premier grand succès du groupe au Royaume-Uni ainsi que dans le reste du monde. Et d'ailleurs, c'est ce titre de chanson qui donnera le nom du premier album du groupe, qui sortira 2 mois plus tard et dont elle fait évidemment partie. C'est l'une des chansons, comme je le disais, les plus connues du groupe. Pete Townshend aurait écrit cette chanson le jour de son 20e anniversaire, en mai 1965. C'était à l'origine, semble-t-il, un blues dans le style de Jimmy Reed, inspiré par la chanson de Moss Allison, toujours Young Man Blues. La chanson traite des angoisses de Townshend vis-à-vis de sa vie d'adulte qui débutait et de ses craintes concernant son avenir. Le morceau ne prend sa forme définitive qu'après plusieurs mois de tâtonnement. Le groupe doit s'y reprendre plusieurs fois pour enregistrer le titre. Pour obtenir le son puissant et clinquant qu'il souhaitait, John Entwistle, le bassiste, doit acheter une basse de la marque Danelectro, s'agissant du seul instrument à posséder les cordes nécessaires pour le son recherché. Or, lors des séances d'enregistrement, Entwistle casse toutes les cordes de l'instrument et est obligé d'aller acheter 2 autres basses, ne trouvant pas des cordes à remplacer dans le commerce. L'idée de Pete Townshend est d'enregistrer My Generation comme un blues lent, sans les bégaiements de Roger Daltrey au départ. Avec l'aide du manager du groupe, Chris Tam, Pete Townshend en accélère le rythme et Roger Daltrey y introduisit donc ces fameux bégaiements qui feront le succès du morceau et qui étaient inspirés selon lui du stuttering blues, en français blues bégayant, de John Lee Hooker. Cette particularité a été souvent interprétée comme un clin d'œil à une drogue prisée dans les années 60, le speed qui faisait bégayer son consommateur. Pete Townshend, en 2002, affirme cependant que cette référence aurait été inconsciente. Lors du concert à Leeds, le morceau dure plus de 15 minutes. Le final de Tommy est inséré dans une sorte de medley. J'ai choisi de ne garder qu'une partie du medley pour la passer ici dans sa partie la plus intéressante.
Before I get old,
talk about my generation.
It's my generation. It's my generation, baby. Why don't you all fade away?
Talk about my generation.
Don't try to dig what we all
say.
I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Yeah.
C'est ainsi que se termine la présentation de ce fameux live, Live at Liszt, TU, qui fut en son temps considéré comme l'un des meilleurs albums live de tous les temps. Bon, par la suite, je prétends que le Live at Fillmore East des Allman Brothers était meilleur, mais ça reste parfaitement subjectif. Je n'ai pas pu aussi vous passer toute la partie de Tommy, et je pense que ça devra faire l'objet d'une autre émission où je consacrerai toujours du Live at Liszt, mais cette fois en mettant l'accent sur les morceaux de Tommy joués en live et qui constituent pour moi quelque chose de très intéressant. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, on changera de registre, on abordera T-Rex et son fameux 33 tours Electric Warrior qui à l'époque, en 1971, fut une véritable révélation. Mais d'ici là, ben, roulez blues!